Vous écoutez France Culture.
France Culture illimitée et demie. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec les nouvelles sanctions prévues à l'encontre des chômeurs en cas de manquement à leurs obligations. Selon un décret publié dimanche dernier, celles-ci seront plus sévères que ce qu'avait initialement annoncé le gouvernement. Et puis autre changement, celle portant sur la définition de ce qu'il faudra désormais entendre par offre de travail raisonnable.
Le prélèvement de l'impôt à la source est entré en vigueur hier.
Et ce matin, pour rassurer ceux qui seront amenés à répondre aux questions des contribuables, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, s'est rendu à Amiens pour y rencontrer les agents de l'administration fiscale.
Dans cette édition également, un nouveau mouvement après les Gilets jaunes, celui des stylos rouges.
Oui, un groupe Facebook d'enseignants totalisant déjà plus de 40 000 signatures réclame en plus d'une augmentation des salaires de meilleures conditions de travail. Puis pour évoquer toutes les questions économiques en France liées à ce changement d'année, invité de ce journal dans une dizaine de minutes, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.
À l'étranger, direction tout d'abord le Mali.
37 civils y ont été massacrés hier par des individus armés dans le centre du pays, théâtre d'un conflit intercommunautaire. Nous nous rendrons également en République démocratique du Congo où les autorités ont coupé la réception de la radio publique française RFI dans tout le pays. Enfin, nous nous intéresserons à la promesse formulée ce matin par le président Xi Jinping. L'île de Taïwan sera réunifiée à la Chine, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que Pékin n'hésiterait pas pour cela à entrer dans un conflit armé. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Après l'armée hier, deuxième volet aujourd'hui d'une série de 4 sur l'ubérisation de nos vies. On va explorer aujourd'hui le champ de nos intimités avec la psychanalyste Muriel Flistrève. Intimité en danger, c'est le titre de l'essai qu'elle fait paraître aux éditions PUF.
Merci, à tout à l'heure. Si en prononçant ses vœux debout face caméra lundi soir, Emmanuel Macron espérait probablement donner de lui l'image d'un président déterminé, bien décidé à reprendre la main, il semble que le chef de l'État devra toutefois encore patienter avant d'espérer un retour en grâce. Dès hier, une première enquête d'opinion attestait de ce que 60% des sondés n'avaient pas été convaincus par la prestation du président. Et si l'on ajoute à cela le blocage ce matin d'un dépôt pétrolier près de Rouen par des gilets jaunes, on se dit que les appels d'Emmanuel Macron à l'unité retrouvée des Français peinent décidément à être entendus. Et pour ne rien arranger, voilà qu'on apprend à présent qu'un décret publié discrètement dimanche dernier au journal officiel vient renforcer les sanctions contre les chômeurs plus durement que ce qui avait été annoncé initialement par le gouvernement. Alors peut-être qu'en écoutant lundi soir Emmanuel Macron appeler les Français à accepter la réalité tout en se disant lui-même au travail, fallait-il comprendre qu'il y avait là déjà un message subliminal? Toujours est-il que certaines sanctions du volet contrôle des chômeurs de la réforme adoptée dans son principe l'été dernier ont bel et bien été renforcées. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors concrètement, l'incapacité à justifier une recherche d'emploi entraînera désormais la suppression pure et simple des allocations pendant un mois, dès le premier manquement. Et puis, outre la suppression donc des allocations pendant la radiation, ce décret entraîne également une modification de la définition de ce qu'est une offre de travail dite raisonnable.
Oui, l'offre raisonnable d'emploi, c'est un concept qui est apparu pendant la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 et qui a été mis en œuvre sous sa présidence. L'idée étant qu'un chômeur ou une chômeuse qui refuse deux offres raisonnables d'emploi puisse être sanctionné. Dans les faits, il y a eu très peu de radiation pour ce motif en 10 ans et c'est ce que veut changer le gouvernement actuel. La ministre du Travail l'avait clairement dit cet automne. Jusqu'à maintenant, c'est le Code du travail qui donne la définition de l'offre raisonnable d'emploi. Elle doit tenir compte des qualifications du chômeur, du type d'emploi recherché, du trajet et aussi du salaire. La définition est d'ailleurs assez précise. Une offre raisonnable doit être à la hauteur de son salaire antérieur si le chômeur est inscrit depuis moins de 3 mois, 85% de son salaire s'il est inscrit depuis plus de 6 mois et au moins le montant de ses allocations au bout d'un an au chômage. Or là, surprise, le décret abroge la définition du salaire antérieurement perçu. Autrement dit, le chômeur ou la chômeuse à qui Pôle emploi propose un emploi dans ses qualifications n'aura plus de légitimité à le refuser pour une question de salaire. Alors pour qu'il soit ensuite sanctionné et radié, il faut que son ou sa conseillère Pôle emploi signale que tel chômeur a refusé deux offres d'emploi raisonnables. Les conseillers vont donc avoir un rôle clé D'autant plus qu'ils vont maintenant définir aussi eux-mêmes avec le demandeur d'emploi ce que sera une offre raisonnable. Fini la définition du code du travail que je viens d'énoncer, on passe à une définition personnalisée, mais du coup très dépendante de chaque conseiller, ce qui inquiète les syndicats des salariés de Pôle emploi, d'autant plus qu'en 2019, 4400 postes vont être supprimés à Pôle emploi et une partie des effectifs de conseillers transférés justement vers le contrôle.
Merci Marie Viennot. Le prélèvement à la source ravivra-t-il la colère des Gilets jaunes ? La crainte existe s'agissant de l'impact psychologique que pourrait provoquer la retenue de l'impôt sur le bulletin de paye. Alors pour l'heure, cette réforme fiscale majeure entrée en vigueur hier ne se concrétisera pour les quelques 38 millions de foyers concernés qu'à la fin du mois. En revanche, les agents du Trésor public, eux, sont d'ores et déjà à pied d'œuvre. Or, le défi technique que constitue cette réforme a beau avoir été largement préparé et anticipé, le ministre de l'Action et des Comptes public, Gérald Darmanin, a tout de même tenu à se rendre ce matin au centre de contact d'Amiens pour rassurer les agents de l'administration fiscale qui seront chargés de répondre aux questions des contribuables. C'est un reportage signé Guillaume Gaven.
Et dans ce centre d'Amiens, c'était l'effervescence ce matin. La présence du ministre chargé de la réforme n'y est sans doute pas étrangère. Visite guidée, comme si de rien n'était, ou presque.
Il y a beaucoup d'appels depuis ce matin ?
Alors, écoutez, là, à partir de 8h30, tous ceux qui étaient présents étaient en main. Depuis le début du centre de contact, 19 septembre au 19 décembre, on avait calculé 50 000 appels. Hein, vous voyez, donc, et ici, bien sûr, ça commence très fort aujourd'hui.
Une trentaine d'agents se relaient au téléphone pour des questions assez simples. William Bilmore est le correspondant prélèvement à la source dans la Somme.
La grande question, c'est quel va être mon taux, comment il va être appliqué. On l'en renseigne sur le taux qui va être le sien, mais il le connaît déjà en fait. Il est sur son avis d'imposition. Et puis après, la deuxième grande vague de questions, c'est ma situation a changé, j'aimerais bien que le taux s'adapte. C'est pris en compte dans nos systèmes informatiques immédiatement. Après, il y a un délai de transmission du taux à l'employeur et un délai d'application de ce taux. Dans la grande majorité des cas, le nouveau taux sera appliqué le mois après la modification.
Et pas de bug à l'horizon. La question commence d'ailleurs à agacer Gérald Darmanin.
Je comprends que vous puissiez me poser la question 17 fois en 17 langues différentes. Je peux vous répondre en ch'timi. Finalement, il y avait deux grandes critiques sur l'impôt à la source. La première, c'était celle d'un bug généralisé. Chacun constate que les choses fonctionnent. Je m'en félicite. Puis après, je comprends bien que la deuxième critique, ce serait celle d'un choc dit psychologique. Comme si les Français ne savaient pas qu'il fallait payer l'impôt sur le revenu. Et vous savez quoi, dans un mois, c'est comme le téléphone portable, on se demandera comment on faisait avant.
Dans un mois, on verra surtout si tout s'est bien passé avec les premiers prélèvements sur les bulletins de salaire.
Et j'ajoute que le prélèvement à la source, mais vécu par les entrepreneurs, cette fois-ci, ce sera le sujet du hashtag de cette semaine, une enquête, je vous le rappelle, interactive via les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, donc avant publication et diffusion sur le site et l'antenne de France Culture vendredi matin. Après les Gilets jaunes, voilà que des enseignants expriment à leur tour leur colère et réclament une revalorisation de leur métier. Il est temps que l'État prenne soin de ses enseignants aussi, écrivent-ils notamment sur la page d'un groupe Facebook baptisé Les Stylos Rouges et qui rassemble déjà quelques 40 000 signatures. Marjorie Péjac, bonjour.
Bonjour.
Dans un manifeste adressé au gouvernement et publié donc sur les réseaux sociaux, ils demandent en plus d'une augmentation des salaires de meilleures conditions de travail. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Eh bien, de meilleures conditions de travail, cela passe déjà, selon les Stylos Rouges, par des classes de 25 élèves maximum et donc forcément par une augmentation du nombre d'enseignants recrutés. Mais surtout, selon Sam, qui souhaite en partie rester anonyme, il faut que dans les écoles, les élèves aient les mêmes moyens. Elle est enseignante en primaire en Seine-Saint-Denis et c'est l'une des cofondatrices du groupe Facebook Les Stylos Rouges.
Dans ma classe, j'ai un livre pour deux en français et en maths. Je n'ai pas un livre par élève. Et ça vient du problème que nous avons un souci au niveau du budget, car il n'est pas national, il est local. Enfin, géré par les municipalités, donc les collectivités. Ce qu'il faudrait, c'est que l'éducation nationale redevienne nationale et que ça soit au ministère de l'Éducation nationale de dispatcher cet argent. Et pour éviter d'avoir dans certaines villes 12 euros par élève et dans d'autres 40 euros par élève.
Et les enseignants demandent également que leur investissement soit mieux reconnu, mieux considéré. C'est ce que dit un autre enseignant sur Twitter, je cite « Nous voulons une reconnaissance du travail effectué, ne plus être payé au lance-pierre et que le monde sache que les profs travaillent plus de 40 heures par semaine. »
Merci Marjorie Péjac. Prenons au mot le président Emmanuel Macron, lequel a notamment formulé pour la nouvelle année le vœu de vérité Les députés socialistes réclamaient une réunion en urgence pour examiner les derniers rebondissements de l'affaire dite Benalla. En vain, puisqu'hier, la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, issue de la République en marche, leur a opposé une fin de non-recevoir. De son côté, la commission des lois du Sénat a, elle, demandé ce matin des explications à l'Élysée et au gouvernement.
Midi 40 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Et invité en direct avec nous en studio pour évoquer les questions économiques liées à ce changement de nouvelle année, Jean-Hervé Lorenzi, économiste, président du Cercle des économistes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger en studio, Marie Viennot. Une première question toutefois, monsieur Lorenzi. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette crise des gilets jaunes?
Un double regard. Le premier point, c'est que, au fond, toute une partie de tensions de société, pas uniquement la société française, avait été, au fond, dissimulée depuis des années. On a l'impression que tout fonctionnait bien et ceci s'exprime. D'ailleurs, je vais faire preuve d'immodestie pendant un instant, mais j'ai écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelait « Un monde de violence », dont j'étais absolument convaincu que ceci aurait lieu. Très facile de dire ça maintenant, mais il se trouve que là, il y a une preuve écrite. Sur le fond, le sujet des gilets jaunes est double. Il est à la fois le souhait que toutes les sociétés occidentales ont d'une répartition des revenus qui soit plus équilibrée. Je veux dire, ces sociétés ont atteint un niveau d'inégalité, de tension, en réalité, entre les groupes sociaux qui est... pour beaucoup, absolument inacceptable. Et puis, un aspect qui est plus politique et qui est plus, de mon point de vue, contestable. Parce que un gilet jaune n'a pas plus de voix que moi. Je veux dire, donc, il représente une partie de l'opinion publique. Mais quand il dit que le président démissionne, c'est son point de vue, c'est pas le mien, par force. Oui, donc, je sépare bien les deux sujets qui me paraissent parfois confondus. Ils ne sont pas l'expression de l'ensemble du peuple français.
Une question de Marie-Ville.
Oui, Jean-Hervé Lorenzi, vous faites partie des économistes qui appellent régulièrement en fait à des changements profonds dans l'organisation économique et sociale de notre pays. Est-ce que vous pensez que la crise des gilets jaunes va permettre à Emmanuel Macron d'aller au bout de ce qu'il voulait faire ou pas? Quel est votre avis à vous là-dessus?
Paradoxe, je pense que les réformes de Macron, qui en réalité ont été très importante quand on regarde ce qui se passe sur le marché du travail. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à propos du décret sur les allocations chômage. C'est très important, par exemple dans l'université, la manière dont les choses se font est tout à fait, disruptif par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières années, mais a été en réalité perçu comme très technocratique, très brutal, très peu expliqué. Ma conviction, c'est que ces réformes, ou une partie des réformes, doivent être plus discutées, mais elles sont évidemment nécessaires. Lorsque l'on prend la réforme des retraites, qui est un des sujets majeurs de l'année 2019, on voit bien que, d'abord, la société française s'est beaucoup réformée sur ce thème-là, depuis Balladur, 93. Hein. En réalité, c'est très important ce qui est passé sur ces réformes, mais ça n'est pas tout à fait suffisant. Et ça signifie, par exemple, qu'on dise les choses de manière beaucoup plus précise. Quand on parle des retraités, moi je suis un retraité, en réalité, qui dispose d'une retraite tout à fait convenable. Et si on m'augmente la CSG, objectivement, on met pas en péril mon existence. En revanche, 20% de la population des retraités est dans des conditions de fragilité et de difficulté majeures, énormes. Se rajoutent des problèmes vraisemblablement de dépendance dans les années qui viennent, de maladies neurodégénérescentes, dans des tas de sujets majeurs. Il est normal qu'on essaye de les traiter. Et donc, il me paraît normal qu'on traite le sujet des retraites, mais en ayant un discours de vérité. C'est-à-dire que ma retraite n'est pas celle d'une femme qui se retrouve à la limite de l'allocation de base.
Mais alors justement, est-ce qu'un discours de vérité, ce ne serait pas justement d'arrêter de parler de réforme, notamment pour les retraites et pour l'assurance chômage, puisque là, le chemin que l'on prend, ce n'est pas une réforme, c'est un changement radical de système.
Moi, je suis tout à fait d'accord. D'abord, ce mot réforme m'insupporte. Il est à toutes les sauces, il veut rien dire. Et deuxième aspect, vous vous souvenez que on décrivait, il y avait soit pour les retraites, soit les réformes systémiques, soit les réformes paramétriques. Paramétriques, ça veut dire qu'on changeait un peu la durée de temps de travail, etc. etc. Et au fond, il y a dans l'approche de M. Macron qu'on soit pour ou contre, c'est pas le sujet, mais il y a quelque chose qui est bien au-delà des réformes, qui est la modification de l'organisation du système social dans notre pays, de sa protection sociale. On peut être pour, on peut être contre. Je suis convaincu que quoi qu'il arrive, les modifications auront lieu. Le tout est de ne pas se cacher derrière son petit doigt et de ne pas dire qu'il s'agit juste d'une, j'allais dire, de quelques rustines qu'on met à un dispositif. On change très profondément le système d'organisation politique et sociale de notre pays.
Alors, un dernier commentaire sur cette intervention d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez compris cette phrase « Le capitalisme ultralibéral et financier va vers sa fin ».
Oui, je l'ai compris. Je l'ai compris.
Alors, dites-moi, non, mais je n'ai pas compris.
Pas parce que non, vous faites semblant de ne pas avoir compris, mais je vais vous dire comment moi je l'ai compris.
Ah non, sincèrement.
Je l'ai compris comme étant le fait que nous avons vécu une période qui a succédé à ce que nous, les économistes, appelons le Fordisme, c'est-à-dire en réalité le développement des classes moyennes, l'amélioration de la situation de la majorité des gens, à un dispositif qui est un dispositif caractérisé par plusieurs choses. Des inégalités croissantes.
Non, mais est-ce que ça touche à sa fin?
Je dis pas que... Oui, je pense que ça touche à sa fin. Mais juste pour définir ce qu'on appelle la rupture, l'idée qu'au fond la technologie est en réalité a des aspects très positifs, mais vous voyez bien que sur le marché du travail, ça éclate, ça bipolarise le marché du travail entre des gens qualifiés et le gars de chez Amazon qui fait des paquets, etc., etc. Et tout ça est en réalité, de mon point de vue, en question partout dans le monde. Est-ce que ça va se modifier? C'est sûrement le souhait d'une partie des politiques, j'allais dire, on va dire sociodémocrate, mais nouvelle façon, ça n'est pas le dispositif qu'avait... Il y a eu une espèce de fausse transformation avec des modèles à la Tony Blair et qui revenait juste à présenter de manière plus séduisante ce modèle. Je crois que ce modèle est en réalité en fin de parcours, tout simplement parce qu'il est inacceptable pour une large partie de la population.
On rappellera, on rapprochera ça, disons, du vœu d'espoir formulé donc par Emmanuel Macron. Merci Jean-Hervé Lorenzi, économiste, président du Cercle des économistes, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Marie Viennot. Depuis que les rescapés ont réussi à prendre la fuite, Koulougon et ses maisons calcinées est aujourd'hui un village fantôme. Il était 6h du matin hier matin lorsque plusieurs dizaines d'assaillants arrivés à moto munis d'armes lourdes ont ouvert le feu massacrant 37 civils dont 3 femmes et des enfants. Alors voilà plusieurs semaines déjà que ce village dans le centre du Mali recevait des menaces. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Il faut dire qu'en plus d'être déstabilisé par les attaques djihadistes, le Mali est aussi le théâtre d'un affrontement intercommunautaire entre les ethnies Bambara et Dogon d'un côté, qui pratiquent majoritairement l'agriculture, et puis les Peuls de l'autre, traditionnellement éleveurs.
En fait, Thomas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce massacre cristallise ce qui est une réalité mal connue ici en France de cette crise malienne, ces rivalités intercommunautaires ancestrales dont l'ampleur et la violence se sont en fait démultipliées dans le contexte de la lutte anti-djihadiste. Au Mali, après l'opération Serval puis Barkhane, les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays ont été dispersés, diminués, mais leur influence, elle a pris un nouveau souffle en s'arrimant dans le centre du pays sur les revendications communautaires des tribus Peuls, des Peuls qui se disent victimes depuis toujours des exactions, de la discrimination des autres ethnies, Bambara ou Dogon, qui elles sont proches du pouvoir central de Bamako. Alors ce ressentiment, il a trouvé un écho dans la cause djihadiste qui, dans le nord du Mali, souvenez-vous, s'était déjà implanté en surfant sur le mécontentement des tribus Touareg. Et dans le centre du Mali, cette alliance, elle s'est matérialisée par la création, il y a 4 ans, de la Katiba djihadiste du Massina, dirigée par le prédicateur Amadou Koufa. Les Peuls, vous l'avez dit, qui sont traditionnellement des éleveurs, dénoncent les exactions de la part de groupes de chasseurs, des exactions qui sont tolérées, voire encouragées, selon eux, par les autorités au nom de la lutte contre les djihadistes. Et alors, en s'appuyant sur cette colère, Amadou Koufa a appelé l'ensemble des Peuls d'Afrique de l'Ouest à la révolte. Devenu l'un des plus importants leaders djihadistes d'Afrique de l'Ouest, il a été tué dans une frappe de l'armée française, c'était il y a quelques semaines, et il est à craindre que sa mort et désormais ce massacre ne viennent alimenter davantage la fureur des Peuls et les radicaliser.
Merci Claude Guibal. Alors que la République démocratique du Congo attend toujours la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au plus tard le 6 janvier, les autorités ont retiré ce matin son accréditation. La correspondante de RFI est coupée par ailleurs la réception de la radio publique française dans tout le pays. Voilà qui vient donc s'ajouter à la coupure de l'internet intervenue lundi dernier officiellement pour éviter un soulèvement populaire au moment crucial donc de la centralisation des résultats des élections. Les précisions à Kinshasa d'Anthony Fouchard.
Au Congo, le huis clos se poursuit. Cela fait 3 jours qu'Internet est coupé dans tout le pays, tout comme les SMS. Seuls les appels téléphoniques locaux comme internationaux sont encore permis. Le gouvernement lui reste droit dans ses bottes et ne communique pas sur cette coupure, même si de nombreux cadres de la majorité affirment que cela est une mesure pour éviter, je cite, la propagation de fausses nouvelles de nature à désinformer la population. Fin de citation. L'omerta se durcit encore un peu plus. Depuis hier, 6 des 9 émetteurs de Radio France Internationale ont été coupés. RFI, extrêmement écouté dans le pays, surtout en cette période, est quasi inaudible. Kinshasa a également révoqué l'accréditation de l'unique envoyé spécial de la radio, Florence Maurice, lui reprochant d'avoir diffusé des résultats non officiels des élections, ce qui n'est pourtant pas le cas. De nombreux médias étrangers se sont vus refuser le droit d'exercer au Congo pendant cette période électorale.
Ça n'est pas encore une déclaration de guerre, mais à tout le moins une sommation en bonne et due forme, en réaffirmant ce matin que Taïwan sera réunifié à la Chine et que Pékin ne renoncera pas à la force pour récupérer l'île. Le président chinois Xi Jinping ne pouvait difficilement faire montre de davantage d'agressivité. Dans le viseur de l'homme fort de Pékin se trouve notamment la présidente taïwanaise qui, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, refuse de reconnaître l'unité de principe de l'île et du continent, comme le réclame la République populaire de Chine. Les précisions à Shanghai de notre correspondante Angélique Forget.
Sous les dorures du Palais du Peuple à Pékin, Xi Jinping met en garde l'île rebelle dans un discours retransmis en direct à la télévision. L'indépendance de Taïwan, dit-il, serait un désastre. Nous ne renoncerons pas à la force pour la mettre sous contrôle. Car Taïwan, c'est pour Pékin le sujet le plus sensible. Depuis 1949, l'île et le continent sont gouvernés séparément, mais la Chine considère toujours Taïwan comme partie intégrante de son territoire. Et depuis quelques années, l'armée chinoise multiplie les manœuvres militaires en mer et dans les airs autour de l'île pour accentuer la pression. Car le parti politique de la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, est favorable à l'indépendance officielle, c'est inimaginable pour Pékin. Le discours de Xi Jinping intervient au lendemain de celui de la présidente taïwanaise. Elle avait appelé Pékin à régler de façon pacifique son différend avec Taipei et à respecter les 23 millions de Taïwanais qui veulent vivre libre et en démocratie. Le président chinois a évoqué l'idée d'un dialogue pour parvenir à un consensus autour de la réunification, à condition que les partis qui débattent reconnaissent au préalable le principe de la Chine unique.
Même si l'avenir de ce partenariat fragile en Israël semblait incertain, le coup de théâtre n'en est pas moins retentissant. L'Union sioniste, la première coalition de gauche, s'est disloquée hier, à quelques mois maintenant des élections législatives du 9 avril. Cette alliance constituait la principale force d'opposition au gouvernement de Benjamin Netanyahou avec le deuxième groupe parlementaire le plus important à la Knesset. L'Honduras devrait débuter prochainement des pourparlers conjointement avec Israël et les États-Unis dans le but d'ouvrir une ambassade à Jérusalem. L'annonce a été faite hier, soit un peu plus d'un an après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, une initiative qui, on s'en souvient, avait suscité de vives critiques de la part de la communauté internationale, mais avait à l'époque été soutenue devant l'ONU par le Guatemala d'une part et le Honduras justement d'autre part, deux pays d'Amérique centrale qui reçoivent par ailleurs une importante aide américaine. Alors l'annonce de ces pourparlers à venir est intervenue hier à Brasilia en marge de la cérémonie d'investiture du président Jair Bolsonaro, le premier chef d'État issu de l'extrême droite depuis la dictature militaire a prêté serment, en s'engageant à lutter contre la corruption, la violence endémique et à défendre l'économie de marché. Jair Bolsonaro qui entend aussi modifier le cap de son pays en matière de politique étrangère. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour.
Alors à quel changement faut-il s'attendre sur la scène internationale? A priori, le président brésilien souhaiterait aligner sa politique sur celle du président américain Donald Trump, c'est-à-dire en privilégiant les relations bilatérales.
Et Jair Bolsonaro veut rompre avec la tradition du multilatéralisme au Brésil, rupture aussi avec sa neutralité, avec donc cette première annonce confirmée hier lors de son discours d'investiture, le transfert de l'ambassade brésilienne en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, un pas historique, a réagi le premier ministre israélien, l'un des seuls dirigeants étrangers invités à Brasilia pour cette cérémonie, une position que Jair Bolsonaro partage avec son allié de poids sur la scène internationale, celui dont il admire le projet. Donald Trump, la coopération s'annonce très forte entre le Brésil et les États-Unis. Tout comme Washington, le président brésilien devrait être plus ferme à l'égard de son voisin au nord, le Venezuela. Les relations avec le président chaviste Maduro s'annoncent très tendues. Une fermeté annoncée aussi contre la Chine pendant sa campagne. Jair Bolsonaro avait notamment déclaré « La Chine ne fait pas ses achats au Brésil, elle achète le Brésil » et il s'était rendu à Taïwan, véritable affront pour Pékin. Mais le président brésilien va tout de même devoir composer avec les Chinois car les échanges économiques Chine-Brésil s'élèvent à 66 milliards d'euros. Le Brésil est le premier exportateur mondial de bœuf et de soja, produit très populaire en Chine. Il exporte aussi la moitié de sa production de poulet et de viande bovine aux pays musulmans. Un expert estime donc que le président brésilien devra peser l'impact de ses décisions internationales au risque de voir son économie fragilisée encore un peu plus.
Merci Fiona Mogadam. On termine avec un mot de météo. Cet après-midi, le soleil s'imposera sur le pourtour méditerranéen. De belles éclaircies se développeront par ailleurs près de l'Atlantique jusqu'au nord de l'Aquitaine et puis partout ailleurs. Le ciel sera encore bien encombré. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Florence Sturm pour le prochain journal de la rédaction.